Merci Maïlys, et à demain pour le débat d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, c'est le troisième moment de notre série consacrée à Borges dans la compagnie des auteurs. Une émission qui vous est proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Emmanuel Morse-Duncan. Il est né en 1899 dans une famille de la bonne société de Buenos Aires, une famille où l'on parlait anglais aussi bien que français et bien sûr espagnol, une famille avec laquelle Borges vivra plusieurs années en Europe dans sa jeunesse et qui lui a sans doute donné le goût du cosmopolitisme. C'est d'ailleurs à Genève qu'il s'éteindra à l'âge de 86 ans, comme nous l'a expliqué lundi François Taillandier lors de notre émission introductive. Et puis hier, la chercheuse Annick Louis nous a parlé de son livre « Borges face au fascisme ». Nous avons également évoqué avec elle la question de l'érudition chez l'auteur du « Livre de sable », cet écrivain que l'on dit difficile, mais dont le souhait était pourtant, disait-il, d'écrire une page, un paragraphe, un livre qui soit pour tout le monde. Enfin demain, c'est Christian Garcin qui sera dans ce studio pour évoquer son attachement à l'auteur d'Aleph et à son œuvre, œuvre envers laquelle il considère avoir une dette considérable. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer à découvrir les grandes thématiques de l'œuvre de Borges, je reçois le philosophe Jean-Claude Martin, auteur d'une bonne trentaine de livres, parmi lesquels on trouve Borges, une biographie de l'éternité, parue aux éditions de l'Éclat en 2006. Mais il faut dire qu'il parle de Borges dans la plupart de ses ouvrages, y compris dans le tout dernier, Logique de la science-fiction de Hegel à Philippe K. Dick, qui vient de paraître, c'est aux éditions Les Impressions Nouvelles. La science-fiction, le fantastique, c'est d'ailleurs un genre auquel appartiennent un certain nombre de textes de Borges, et ce n'est pas pour rien. Écoutons-le.
Je me contenterai d'observer que la littérature a commencé par le fantastique. La littérature commence et par la cosmogonie et par le mythe. Elle ne commence pas par le réalisme. Le réalisme peut être une hérésie plus ou moins contemporaine. Les enfants aussi, les enfants commencent par le fantastique. Ils aiment raconter des choses fantastiques. Et le peuple aussi. La littérature commence par l'épopée. Ce n'est pas le réalisme. Personne ne pense que la chanson de Roland soit l'histoire de Charlemagne en Espagne. Non, personne n'a pensé à cela. C'est-à-dire que l'on commence par le fantastique, par le mythe. On commence, disons, par le premier verset de la Bible. Non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, ça n'est pas du réalisme, c'est une conjecture fantastique. C'est-à-dire que si je fais de la littérature fantastique, je suis fidèle à la tradition de toute la littérature.
Bonjour Jean-Claude Martin.
Bonjour.
Alors si on suit Borges, finalement l'origine de la littérature, c'est ce mauvais genre qu'on appelle le fantastique. C'est votre avis aussi ?
C'est vrai que, d'une certaine manière, Borges s'est directement saisi du mythe, enfin, que la, comme on vient de l'entendre du reste, la littérature, pour lui, n'est pas l'exercice de la morale. Ça n'est pas quelque chose qui, comme par exemple, ce serait le cas de la fable, de produire une catégorie qui permette de nous conduire. La fiction se place par-delà le bien et le mal, et donc il y a chez Borges ce sens de, ou ce souci en tout cas de l'histoire. Il est l'auteur notamment d'une histoire universelle de l'infamie. C'est là un motif, l'infamie, qui n'est pas particulièrement heureux. Je dirais que c'est un motif au fond qui donne le sens même de ce que la mythologie même décline, c'est-à-dire la question du meurtre, du crime, l'enquête, l'inquisition, enfin toutes ces thématiques borgésiennes qui seraient finalement assez marginales par rapport à ce que la littérature avait l'habitude de traiter.
Alors, vous êtes un spécialiste de Deleuze, que vous avez bien connu. Vous avez écrit sur Deleuze. Et Deleuze disait qu'un livre de philosophie doit être une sorte de science-fiction. Il y a peut-être un lien qu'on peut faire ici entre Borges, dont on vient d'entendre en archive tout ce qu'il mettait dans, finalement, le fantastique et, par extension, la science-fiction, et Deleuze.
C'est-à-dire que, comme Foucault, d'ailleurs, je crois que Foucault a dû mourir à peu près à la même année que Borges, ou en tout cas, c'était tout à fait contemporain. Bon, donc, on sait que les mots et les choses de Michel Foucault s'ouvrent sur Borges. Enfin, la préface des mots et des choses, c'est une lente déclinaison, si je puis dire, de la question de l'espace chez Borges. L'espace borgésien est un espace monstrueux dans lequel les choses s'empilent en vrac, cette espèce d'abécédaire chinois dont il était question à un moment donné, qui fait coexister des choses qui ne devraient pas se rencontrer du coup. Et donc Foucault a eu le sentiment ou l'intention de pratiquer l'histoire à la manière borgésienne. Borges est un maître de l'histoire. Il a notamment rédigé un ouvrage qui s'appelle Histoire de l'éternité, ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs d'appeler mon livre une biographie de l'éternité, puisque c'était le titre initial qui était prévu par Borges lui-même. Et donc je dirais que oui, Foucault va pratiquer lui aussi une histoire qui est très marginale, qui s'intéresse à des choses que la morale au fond aurait tendance à proscrire, des choses aussi qui ne constituent pas ce qu'on appelle un événement, mais davantage sans doute une forme de composition qui saisit l'histoire à revers ou à l'envers. Et donc ça, Borges, c'est vraiment le maître d'une histoire dont la temporalité s'effrite un peu dans tous les sens. Alors il se trouve que, en même temps que Foucault, Deleuze, autre philosophe contemporain d'une certaine manière, de Borges, a eu vis-à-vis de Borges l'intention de l'utiliser dans le cadre d'une logique. C'est dans la logique du sens que Deleuze va consacrer ce qu'il appelle une série, une petite série de cette logique-là au jardin qui bifurque, le jardin ou sentier qui bifurque a constitué pour la philosophie contemporaine, je pense, un modèle extrêmement important, puisque au fond, il s'agissait de repenser le temps ou même l'événement dans quelque chose qui n'était plus linéaire, dans quelque chose qu'on ne pouvait plus simplement organiser d'après des étapes ou des unités qui seraient rationnelles. La littérature elle-même a longtemps fonctionné sur des unités de temps, sur des unités d'action, sur des schémas qui, depuis Aristote, au fond, étaient redevables d'une poétique assez rationnelle. Et donc, avec Borges, tout ça a tendance à exploser. On est dans un monde où, au fond, la causalité n'a plus la possibilité d'orienter le cours de l'histoire. Et voilà, donc Deleuze a, comme Foucault, eu le sentiment d'être redevable à Borges de ce modèle qui est un modèle de narratologie aussi d'une certaine manière. Dans son texte sur Averroès, dans Fiction notamment, Borges montre bien comment au fond Averroès va mal traduire, ne peut pas traduire la poétique d'Aristote pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de théâtre dans le monde arabe et que du coup ce qui intéressait Averroès, c'était dans la question de la limitation, dans la question de la ressemblance ou de la représentation, parce qu'il n'y a pas de spectacle, on ne représente pas un monde, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de théâtre. Il y avait chez Averroès l'idée, au contraire, que tout était filé par des métaphores. C'est la métaphore, c'est l'écart métaphorique qui va conduire la pensée d'Averroès. Et de manière extrêmement subtile, Borges va arracher cette idée de la métaphore à ce penseur arabe pour introduire dans la littérature un modèle qui n'est plus un modèle aristotélicien, c'est-à-dire qui n'est plus une fiction racontée, un récit raconté, qui serait un récit capable d'organiser la temporalité. On est au contraire chaque fois devant des bugs, on est chaque fois devant des événements qui font irruption et dont il s'agit de négocier le sens. Mmh.
Vous parliez avant le début de cette émission des philosophes qu'a pu lire Borges. Vous avez cité William James. Quelles seraient les sources philosophiques de Borges?
Oui, alors le père de Borges était un lecteur assidu de William James et il avait notamment dans sa bibliothèque tous les ouvrages de James. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on est dans une philosophie qui ne ressemble pas trop à ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie anglo-saxonne, qui ne déclinait pas la question du langage. Enfin, c'était pas tellement l'idée de communication qui intéressait James. James est l'auteur d'un univers multiple. On doit à James l'idée d'un monde qui est fait de monde, d'un monde qui ne cesse de s'émonder ou de s'effondrer ou de s'effonder, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui serait assez proche de ce que aujourd'hui on appelle des multivers ou de ce qu'on appellerait un plurivers. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais aussi croisé cette thématique après mon livre sur Borges, c'était la question du plurivers. Nous sommes non seulement dans une temporalité qui est une temporalité qui bifurque, comme le jardin, au sentier qui bifurque, nous sommes dans une temporalité qui bifurque, mais en même temps dans des univers qui s'écartent les uns des autres, avec néanmoins des événements communs qui s'introduisent de l'un à l'autre. Et je crois que de ce point de vue-là, du point de vue de la littérature en tout cas, s'il y a un auteur qui reprend Borges, c'est Philippe K. Dick, dans une veine qui est également philosophique. Philippe K. Dick étant ce personnage qui se retrouve soudainement dans sa salle de bain en train d'allumer la lumière en tirant sur un cordon, c'est un schéma sensorimoteur, c'est une habitude et pourtant il n'y avait pas de cordon. Alors, Philippe K. Dick s'est demandé d'où lui est venue cette habitude, ce mécanisme, cette possibilité d'allumer la lumière en tirant un cordon. C'est un autre monde forcément, il y a eu là le croisement entre deux mondes qui ne sont pas les mêmes et Borges s'est toujours déplacé dans ces marges-là. Borges a été le grand aventurier, le grand bibliothécaire de tout ce qui bifurque, de ces mondes qui s'écartent les uns des autres et qu'on peut joindre par la métaphore.
Alors, on peut peut-être prendre un exemple d'un texte de Borges que vous-même vous citez dans Logique de la science-fiction. Votre dernier livre, c'est la nouvelle Le Zahir, qui se trouve dans le recueil L'Aleph. Pour essayer de faire comprendre un petit peu à nos auditeurs, à partir d'un texte, ce que vous mettez dans la pensée de Borges. Alors, c'est une petite nouvelle, un texte où il est question de cette pièce de monnaie qui s'appelle le Zahir. C'est une pièce de 20 centimes. Qu'est-ce que vous voyez? Alors peut-être pouvez-vous nous dire un petit peu de quoi il retourne et puis ensuite ce que vous voyez finalement dans ce texte et en quoi ça peut éclairer, nous permettre de mieux comprendre votre point de vue sur la pensée de Borges.
Ben précisément, la pièce circule d'un monde à l'autre. Je veux dire qu'il y a des tirelires, des fentes, des pièces perdues, des pièces usées. Et je crois que c'est une figure emblématique d'un certain nombre de modèles de la narratologie. La pièce de Monet, on trouve par exemple chez Nietzsche l'idée que la métaphore est une pièce de Monet dont on n'arrive plus à lire parce qu'elle est usée, un peu comme une métaphore, comme une catachrèse, à force d'être employée, n'est plus audible. Lorsque je dis le pied de la table, l'idée de pied ne surgit plus au sens animal. Donc c'est devenu une habitude qui s'est inscrite dans la langue et la pièce pour Nietzsche, la pièce de Monet, c'est un peu une pièce dont on a oublié l'origine. Alors Borges, dans ce texte que vous évoquiez à l'instant, en effet, prend cette pièce comme le lieu d'un parcours qui est un parcours métaphorique, qui passe de main en main, qui est daté, estampillé à un moment particulier de l'histoire et qui va, à travers un trajet complètement aléatoire finalement, aboutir à être collectionné peut-être par le hasard d'un parcours qui est aussi erratique sans doute que le bateau ivre de Rimbaud. Et donc, si vous voulez, cette pièce de Monet, on la retrouvera chez Kant. La question de la preuve de l'existence de Dieu, par exemple, sera critiquée dans la philosophie kantienne en faisant référence à la monnaie allemande, les thalers. Kant expliquera qu'au fond, la démonstration de l'existence de Dieu telle que Descartes l'a instituée n'avait pas le poids du réel que pouvait avoir un thaler. Mais bon, il se trouve qu'une pièce de Monet est hautement symbolique, et on doit à Klousowski l'idée d'une monnaie vivante au fond, et qui va s'inscrire aussi dans, non seulement dans un trajet, mais qui va apporter une légende, une histoire, et c'est ce modèle de, précisément c'est ce modèle historique, c'est ce modèle à la fois du transport de sens en même temps que de l'accident que au fond Borges arrive à thématiser par le parcours un peu erratique de cette pièce, et il me semble au fond que Michel Foucault par exemple va également lui du côté des mots et des choses considérer une histoire en vrac, ce qui il ne rentre plus dans une histoire qui serait une histoire événementielle ou même une longue durée, il rentre vraiment dans une histoire où c'est la rencontre qui domine, c'est-à-dire un espace qui est l'espace de l'événement.
Et puis la pièce de Monet, elle est jaune. Et le jaune, c'est la couleur préférée de Borges, parce que c'était la seule couleur qu'il pouvait voir à partir, disons, de la moitié de sa vie. Je propose d'écouter une archive de Borges parlant précisément de sa cécité.
Le noir, c'est une des couleurs que j'ai perdu. Le rouge et le noir, pour le dire en standalien. Donc il me reste quelque chose, je ne sais pas si c'est latent au bleu, ou au vert, ou au gris. Et puis le jaune. Le jaune, c'est là, c'est survécu.
Est-ce que vous essayez de vous guider en fonction justement des formes que vous apercevez, des lumières, des couleurs différentes que vous distinguez?
Un peu, mais surtout il faut que les gens m'aident, non? Parce que moi, je ne peux pas traverser une rue, par exemple. C'est une façon de me suicider, non? Ce qui ne serait pas mal, non? Mais on n'est pas sûr même de le faire.
Est-ce que vous recherchez parfois l'obscurité en fermant les yeux ou en essayant d'être plutôt dans les pièces noires?
Oui, mais les pièces noires ne sont pas des pièces noires pour un aveugle. Ce sont des pièces bleuâtres. C'est plutôt un brouillard. C'est le fog, le brouillard, oui.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Borges, d'un Borges philosophe avec vous, Jean-Clé Martin. Il était interrogé ici, Borges, en 1977 par Jean Montalbetti. Alors la cécité, c'est quand même par ça que vous ouvrez votre livre, Biographie de l'éternité. Pourquoi avoir commencé votre ouvrage par ce thème-là ?
Il est clair, si je puis dire, que Borges souffrait évidemment d'une difficulté assez insurmontable, qui est la cécité, qui est un destin auquel il n'a pas pu échapper.
Et il savait déjà très jeune qu'il serait aveugle.
Puisque son père a eu exactement le même souci, et que c'était un problème familial, et donc qui a été accentué à un moment lorsqu'il s'est heurté la tête très violemment contre une poutre dans un grenier, je crois. Et,
chacun a sa version. Alors moi j'ai lu
sa version,
un volet ouvert ou une fenêtre
ou un volet,
ouverte.
Oui, et donc du coup il a eu l'angoisse de ne plus pouvoir écrire, de ne plus pouvoir organiser une suite qui aboutirait à quelque chose comme un roman. Parce que je crois que au fond, au début en tout cas de sa carrière littéraire, Borges n'excluait pas l'idée s'engager dans un parcours plus temporellement plus large, plus ample, et donc dans la maîtrise d'un texte qui supposait des facultés visuelles que Borges perdait avec la nécessité au fond d'apprendre par cœur un certain nombre. Alors le poème a été pour lui quelque chose qu'il transportait parce que c'est un format qui renvoie à une espèce de philosophie portative ou à une espèce de concept actualité on peut garder sur soi, de même que la nouvelle très brève a ce pouvoir d'être déclinée du début jusqu'à la fin. Il était possible du point de vue de la mémoire de tenir ensemble les deux extrêmes, et on a donc chez Borges peut-être un modèle littéraire qui est aussi sans doute lié à la question du corps, à la question de ce corps extraordinaire qui est celui de Borges, s'orientant dans le noir. On vient d'entendre que le noir n'existe plus pour un aveugle. La grande difficulté pour l'aveugle, c'est de traverser une nuit, quoi, parce que la nuit n'existe plus. Il y a toujours comme une espèce de parasitage du champ perceptif, hein, par un gris, dit-il, et que du coup il ne pouvait plus se reposer, il n'y avait plus de repos possible. Et alors voilà, c'est un auteur tourmenté qui écrit dans des moments qui peuvent être la nuit, mais qui écrit aussi parfois en marchant.
Et en même temps, cette cécité, c'est certes une clôture qu'il a vu venir, puisque encore une fois, il n'est pas devenu aveugle du jour au lendemain, il a perdu progressivement la vue, donc ça a été pour lui une clôture, mais ça a été aussi une forme de libération. Est-ce que vous le comprenez, ça?
Oui. Ça a été, dit-il très précisément, ça a été une clé secrète ou une espèce d'algèbre, dit-il. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la manière dont Borges écrit est... malgré sa difficulté de voir, est une écriture de voyant. C'est un grand voyant, un contemplatif.
Et d'ailleurs, ses poèmes sont souvent des poèmes d'images.
C'est
et
ça.
Notamment les premiers poèmes de Borges sur sa ville de Buenos Aires.
Oui, absolument. Et ce sont des poèmes où il me semble, en tout cas, que la question n'est pas tant celle de la mélodie, ni celle de la répétition que constituerait la rime. Il y a quelque chose chez lui qui se déboîte sans cesse et qui renvoie davantage au rythme. Enfin, je veux dire, ce serait à l'image peut-être de Stravinsky. Enfin, c'est des moments comme ça qui éclatent, qui percutent et qui sont purement de l'ordre de l'image.
D'ailleurs, la musique, c'est important aussi pour Borges, parce que quand on perd la vue, évidemment, l'ouïe devient prépondérant.
Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est assez étrange dans le sens où, au fond, Borges a été, malgré tout, un amateur de cinéma. C'est-à-dire que il a eu la difficulté de percevoir la logique de l'image sur écran. Bon, il a écrit quand même les textes cinématographiques relativement jeunes, mais enfin, il n'empêche que c'est à l'oreille, sans doute, qu'il s'orientait dans le dédale de l'archive audiovisuelle. Hein.
Donc il allait beaucoup au cinéma quand même.
Beaucoup,
il écoutait seulement, alors.
Oui, c'est ça. Pour lui, le cinéma n'est pas simplement un art annexe. Il a écrit un petit texte sur Orson Welles, notamment sur Citizen Kane. Et ce texte, la même année donc où il a fait la recension de ce film, il a écrit un texte qui s'appelle Herbert Kane,
oui.
Donc dans fiction. Et donc du coup, c'est étrange, c'est que on retrouve un peu la même préoccupation que celle de Welles dans Citizen Kane. Voilà, donc
ça s'écrit pas pareil, le Kane de Borges.
Oui, alors Kane meurt et il y a des tranches de vie. Il y a des tranches de vie qui sont complètement différentes et qui ne vont plus s'organiser entre elles de façon suivie, puisque ça va être chaque fois un autre personnage qui va avoir un accès, qui va rapporter la vie de Kane. 8 amis de Kane, ou peut-être moins, je ne sais plus, se retrouvent pour redire la vie de cet homme dont on ne sait pas qui il a été finalement. Il se trouve que le récit sur Herbert Kane, donc homonyme au fond de Citizen Kane, ce récit de Borges va s'ingénier précisément à déconstruire complètement la question de la temporalité, ou en tout cas le récit dans ce qu'il a de successif. Et il décrit Kane en train d'écrire au fond un roman qui partirait à l'envers, qui serait comme enregistré finalement à l'envers et qui serait dit à l'envers. Donc oui, le cinéma a été pour Borges l'occasion de non pas de fuir la cécité, mais d'y revenir en y impulsant toute la puissance algébrique finalement de lignes qui sont pures. Parce que bon, la pomme, la main de l'aveugle continue à fonctionner comme un pavé tactile. Vous pouvez tracer sur la pomme de la main des triangles, des cercles, et donc un aveugle peut avoir en effet l'idée de ce que c'est le cercle à partir de ce pavé tactile que constitue sa main, avec la question des parallèles, avec la question des angles, donc l'ouverture angulaire. L'aveugle peut très bien comprendre ça, il est dans une algèbre spéciale, et je crois que Borges va impulser ça dans la question de la littérature.
Alors qu'est-ce qu'une fiction chez Borges? Vous répondez, Jean-Clé Martin, dans votre livre, que c'est un labyrinthe. Je vous propose d'écouter justement Borges parler de l'origine de son obsession pour la figure du labyrinthe.
Le mot est tellement beau, labyrinthe. En espagnol, c'est le même mot, labyrinthe. C'est un mot grec. Tandis qu'en anglais, il y a deux mots. Labyrinthe, c'est assez beau. Puis le mot maze, qui n'est pas beau. Enfin, vous avez maze maintenant, étonnement. C'est-à-dire se sentir dans un labyrinthe. Non? Et toi, maze, étonné. Et puis il y a une danse qui s'appelle maze aussi. Mais le mot labyrinthe est tellement beau.
Est-ce que le labyrinthe n'est pas aussi une sorte de symbole de l'absurdité du monde ? Qui se répète sans finalité et qui n'aboutit à rien.
Oui, mais en même temps, si nous étions sûrs que le monde était un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a un ordre secret, cela serait une grande chose pour nous. Cela serait très important. On n'est pas sûr que ce soit un labyrinthe. Le labyrinthe serait un cosmos caché. Tandis que peut-être le monde n'est que le chaos, non que le désordre. Parce que dans un labyrinthe, il y a un centre, il y a un plan. Tout cela était prévu et nous ne savons pas si l'univers était prévu. C'est-à-dire que nous ne savons pas si nous sommes dans un labyrinthe.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Finalement, Jean-Clé Martin, c'est très rassurant, le labyrinthe, c'est une organisation finalement plus compréhensible de l'univers que le chaos total. Évidemment, quand on pense au labyrinthe chez Borges, on pense d'abord à son texte « La bibliothèque de Babel », dans lequel Borges imagine cette espèce de bibliothèque géante, si ce n'est infinie, faite d'hexagones, tous absolument identiques et qui contiennent tous les livres du monde, mais aussi toutes leurs traductions, mais aussi tous les livres qui ont pu être écrits sur chacun des livres présents dans cette immense bibliothèque. Donc, qu'est-ce que pour vous signifie, et peut-être, si vous le souhaitez, à travers ce texte de la bibliothèque de Babel, qu'est-ce que ça signifie le labyrinthe chez Borges, selon vous, Jean-Clé Martin ?
En tout cas, c'est un très très beau texte, extraordinairement puissant, qui a donné lieu à des réflexions. Il y a des modèles informatiques qui essayent de reproduire ce labyrinthe.
Ah oui.
Et ce qui est assez étrange, c'est que l'idée que Borges se fait du labyrinthe a varié. Elle est variable. C'est vrai qu'au fond, le labyrinthe, c'est un ordre. Il y a une division et cette division se répète. Il y a une répétition qui est tout à fait parfaite et donc ce serait un monde particulièrement prévisible. Par contre, cette prévisibilité est la suivante, c'est que dans un labyrinthe, ce qui est certain, la nécessité absolue de ce labyrinthe, c'est que je suis perdu dans ce labyrinthe, parce que ce labyrinthe ressemble à une meule de foin. Et vous savez bien que dans la meule de foin, la difficulté de trouver une aiguille est extrêmement...
proverbiale.
Et voilà, c'est ça, c'est tout à fait problématique. Et Borges... non seulement s'ingénie à surmultiplier les 26 éléments de l'alphabet auxquels on pourrait d'ailleurs rajouter des ponctuations, des accentuations, etc. Non seulement il s'ingénie à imaginer un arrangement aléatoire entre ces différentes lettres, comme on pourrait en obtenir en les mélangeant dans une loterie, comme on pourrait imaginer en les mélangeant dans un sac, ou comme ça se produit aussi pour un singe dactylographe qui aurait la vie éternelle devant lui, avec un clavier pour composer au hasard un certain nombre de suites. Et partant de là, il est nécessaire en effet que la recherche du temps perdu de Proust a un moment ou un autre advienne en tant que résultat de cette combinatoire infinie.
Mmh. Mais par hasard.
C'est par hasard, mais en même temps, la question de ce hasard doit être néanmoins ratifié par un parcours, c'est-à-dire par un chemin. Ce serait une erreur de considérer que la langue est simplement la collection des possibilités combinatoires des lettres de l'alphabet, que ce soit donc simplement une espèce de production abécédaire. Il ne s'agit pas du tout de ça, au fond. Parce que vous voyez bien que au-delà des 26 éléments de l'alphabet, il y a des accents, il y a des intensités, il y a des... Il y a des niveaux de sens, parce que le mot lui-même n'est pas simplement un ensemble de phonèmes, il constitue une unité. La phrase constitue une unité. Le récit, l'œuvre de Marcel Proust, elle est inscrite dans quelque chose qu'on ne peut pas simplement réduire à la collection de ses composantes. Et il y a quelque chose de suréminent, quelque chose qu'on pourrait appeler une propriété émergente, finalement. Voyez bien que mélanger de l'oxygène à de l'hydrogène, ça n'est pas simplement en rester à du gaz, c'est obtenir un liquide. Et le liquide est mouillé, il coule entre les mains. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, c'est quelque chose qui relève de toute autre chose, finalement, que l'oxygène ou l'hydrogène. Et donc, le labyrinthe, pour Borges, c'est une création de propriétés émergentes, une création de niveaux de sens qui sont infinis.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jean-Clé Martin, nous allons sortir du labyrinthe pour quelques minutes, du moins je le crois, grâce au directeur de la Nouvelle Revue Française, Michel Crépu. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
Sortirons-nous du labyrinthe avec vous ?
Oh, je crains bien que non.
Ah non !
Mais la question « suis-je dans un labyrinthe ?» est le propre même du labyrinthe. Et évidemment, je suis tout à fait... partant pour le jardin au sentier qui bifurque, qui m'a rappelé d'ailleurs au passage les chemins qui mènent nulle part de Heidegger. Je ne sais pas si Borges a beaucoup pratiqué Heidegger, mais en tout cas, le jardin au sentier qui bifurque m'emmène immédiatement dans tout un monde poétique où je vois d'ailleurs, j'aperçois Valéry Larbeau, entre autres, qui rêvait d'écrire une histoire de la pluie, qui me paraît aussi un thème très borgésien. Tout ça.
Bon, je ne vous savais pas si borgésien, mais visiblement, vous l'êtes donc, Michel Crépu. Ce n'est pas de Borges que vous venez nous parler réellement aujourd'hui, mais de Jean d'Ormesson qui nous a quittés dans la nuit de lundi à mardi dernier. À l'âge de 92 ans, vous avez consacré votre blog sur lanrf.fr à cette disparition. Que vous inspire-t-elle ?
Elle m'inspire le sentiment que nous assistons à la dernière, au dernier congé donné par un écrivain au pays tout entier. La question n'est pas, la question est bien sûr de savoir si Jean d'Ormesson est un grand écrivain, un bon écrivain ou un mauvais écrivain. Je ne répondrai pas là maintenant à ces différentes questions, même si j'ai mon avis sur la question. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me frappe surtout, et d'ailleurs on le voit bien à la réaction médiatique généralisée, la littérature incarnée dans cette figure de gentilhomme de la vieille France continue d'exercer une extraordinaire, non pas emprise, mais une présence pour les Français.
Donc c'est l'écrivain national, parce qu'en même temps, ça n'est pas
national.
Le grand écrivain qu'on va voir, que les jeunes écrivains vont aller rencontrer chez lui.
C'est pas Proust, c'est pas Flaubert, c'est pas, on est loin de tout ça, mais on est devant quelqu'un qui a représenté pour le pays une présence de la bibliothèque. C'est très, très frappant.
Et alors, c'est aussi quelqu'un qui incarne la France en ce sens qu'il incarne l'Académie française, puisqu'il y est entré à 48 ans. Il était benjamin de l'Académie à ce moment-là, et il avait 92 ans quand il est mort. Oui. Il a donc été à la fois le benjamin et le doyen de l'Académie française. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose de lui ?
Ça veut dire qu'il a eu, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, une chance folle, enfin, de mener une vie épicurienne comme on pourrait rêver. Je dis bien, on pourrait rêver de la vivre. Il l'a menée d'un bout à l'autre avec un dans un rapport de confiance avec la Providence tout à fait exceptionnel. Et donc voilà, mais c'est quelque chose qui relève, je pense qu'il n'aurait pas désapprouvé de dire qu'il a eu simplement quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de chance.
Mmh. Quelqu'un qui disait oui à la vie, c'était l'homme du oui, Jean d'Ormesson.
L'homme du oui, l'homme du bonheur et l'homme qui apprend en cours de route, parce que il y a une succession de personnages dans le parcours de Jean d'Ormesson, mais qui a appris en cours de route un certain sens de du raisonnable, de la modestie. Ces chroniques politiques du Figaro me paraissent de ce point de vue ce qui certainement va rester de plus saillant.
Et puis on a appris ce matin la mort de Johnny Hallyday. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Est-ce que la NRF se saisira également
de
cette
sûr.
Disparition?
Johnny Hallyday était l'autre crooner du pays. Et c'est vrai que on peut s'amuser à comparer l'extraordinaire coïncidence là des parallèles entre la mort de Jean de Hallyday et Johnny d'Ormesson.
Merci Michel Crépu, et donc je renvoie nos auditeurs à votre blog lanrf.fr et toujours évidemment en librairie l'ANRF papier. À bientôt. Suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Borges avec le philosophe Jean-Clément Martin, auteur notamment, entre autres livres très nombreux, de Borges, une biographie de l'éternité, paru en 2006 aux éditions de l'Éclat.
Borges a fait une littérature apparemment gratuite, qui ne raconte que l'expérience de la littérature, laquelle raconte évidemment l'expérience de la vie. Donc c'est comme une littérature au carré qu'il fait. Et je crois que cette sorte de littérature est un phénomène qui correspond au XXe siècle, au siècle de littérature comparée. Mais ce qui me semble grand en lui, c'est la vision. C'est qu'il a donné une vision possible de l'univers. Et ça, ce n'est pas peu de choses. C'est-à-dire qu'on peut dire borgésien, et aujourd'hui beaucoup de gens comprennent. C'est-à-dire qu'il y a une notion de jeu, il y a une notion de miroir, il y a une notion de fausseté, de vérité cachée. Et borgésien, d'une façon secrète mais suffisante, veut dire beaucoup de choses.
Une archive qui est aussi une définition par Hector Bianciotti de l'univers de Borges, qu'il définit en juxtaposant un certain nombre de termes. On ne peut pas faire tellement autrement finalement pour définir l'univers de Borges que par cette juxtaposition, Jean-Clément Martin.
Oui, et c'est une juxtaposition d'autant plus intéressante qu'elle est menée par Borges, on l'entendait tout à l'instant, au carré. C'est une littérature au carré. Le carré, c'est la puissance.
C'est les mathématiques aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Donc le carré, c'est la puissance, c'est l'exposant qui va permettre, au fond, de passer non pas simplement d'un codex alphabétique une suite donc de mots, mais qui incarne précisément quelque chose qui relève de la puissance qu'est la littérature. La littérature n'est pas une collection. La littérature, c'est un ensemble de textes dont l'auteur a ratifié l'organisation. Du côté des échecs, si on comparait, puisque le modèle de Borges est un modèle combinatoire et que la loterie à Babylone aussi intervient souvent dans sa manière de raisonner, si on comparait la littérature à un jeu d'échecs, néanmoins, il y a des parties d'échecs célèbres. Certes, Rousseau va gagner ou Napoléon Bonaparte gagne contre je ne sais plus quel a été l'interlocuteur, mais toujours est-il que ce sont des partie qu'il faut signer, qu'elle n'existe pas aussi longtemps que quelqu'un ne vient pas ratifier la combinaison et la porter au rouge dans une forme d'amour de ce qui arrive, un peu stoïcien, vous savez, l'amour fatigue, l'amour de la fatalité. Alors le parcours erratique dans le labyrinthe dont il était question, cette capacité de porter un énoncé à sa plus grande destinée, à sa plus grande destination, en l'affirmant comme quelque chose qui relève d'une vie et d'un parcours. Le bibliothécaire qui erre dans les différents couloirs de la bibliothèque et qui se perd parfois aussi dans les latrines de ces couloirs, eh ben ce bibliothécaire suit un chemin qui ne sera pas du tout le même que par exemple le mien ou le vôtre, de telle sorte que Borges comprend très bien que ce n'est pas seulement les textes qui s'écrivent, mais c'est nos vies qui sont écrites. Et j'en veux pour preuve que du point de vue de notre corps, du point de vue de la physiologie, c'est une formule de Borges, tout ce qui vit est écrit et tout ce qui est écrit vit. Nous sommes l'expression d'une formule. Notre corps, dit Borges, est une composition de, en faisant référence aux quatre éléments grecs et à l'Antiquité, une composition entre les quatre éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air, etc. Et donc, du coup, en effet, nous sommes chacun l'expression d'une formule que nous affirmons, que nous avons à affirmer, et qui est unique. Nous sommes nécessairement un unicum, c'est-à-dire nous sommes uniques au point où, précisément, notre vie ne pourra pas être singée par un autre. Des jumeaux ne s'imitent pas. Le code génétique de jumeaux les plus parfaitement identiques, ça n'est pas l'imitation de l'un par l'autre, ça n'est pas une copie, on n'est pas dans la question du modèle, lequel des deux jumeaux serait modèle et lequel serait copie, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas un ordre de priorité. Et on retrouve cette problématique-là, en effet, dans ce que notre vie a affirmé, non pas en tant qu'elle copie quelque chose, mais en tant qu'elle va adhérer, comme le font les stoïciens, du reste, à l'événement.
Est-ce que Borges, à un moment donné, je pense que la réponse est non, mais j'aimerais vous entendre tout de même en parler, donne les raisons son intérêt profond pour la compréhension métaphysique du monde. Est-ce qu'on arrive à saisir ou à avoir l'intuition de la tension qui, au départ, crée l'espèce aussi de mal-être, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même un mal-être chez Borges dans la difficulté d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tout le chaos. Est-ce que parfois dans les textes ou dans la biographie peut-être aussi, même si ça m'étonnerait beaucoup, on ressent l'origine un petit peu de cette tension-là, Jean-Clé Martin ?
C'est toujours difficile de parler à la place de ce que Borges avait à nous dire. Et donc, il n'y a pas, je pense, de vérité de l'œuvre. C'est au lecteur qu'il appartient de rejouer la combinaison qui est celle de Borges, comme Pierre Ménard va rejouer la combinaison qui était celle de Cervantes.
Donc Pierre Ménard, l'auteur fictif qui réécrit le Quichotte.
Oui, c'est un auteur.
Quelques pages du Quichotte.
Voilà, c'est l'auteur. On est dans la gémellité, au fond, mais l'un ne copie pas l'autre. Ménard va réécrire le Quichotte simplement en retrouvant dans le labyrinthe finalement de la bibliothèque à Babel l'archétype qui constitue la matrice qui a constitué finalement le texte. Et il faut savoir que le texte de Cervantes est lui-même déjà quelque chose comme ça. Le texte va faire un lapsus. Enfin, le texte de Cervantes est un texte qui s'interrompt par le milieu et qui est une traduction. L'original manque. Mm-hmm. Ce n'est pas Cervantes ne se donne pas comme étant l'auteur de cet ouvrage-là. Et au milieu du chapitre 8, je crois, le récit s'interrompt et l'auteur va rechercher la suite dans un dépôt de vieux papiers qui sont posés en vrac. Enfin, c'est tout un quelque chose d'extrêmement dans une déchetterie finalement. C'est donc dans le déchet le plus radical que l'œuvre ou le roman de Cervantes se poursuit. Et donc, pour répondre à votre question, en effet, il y a peut-être une déchetterie pour toute existence, et que notre vie, elle passe en effet par des moments qui sont des moments extrêmement pauvres, des moments qui renvoient aussi à une certaine détresse, à une certaine nudité, qui fait l'intérêt peut-être d'une métaphysique de la pauvreté. Je crois que bon, Borges a été très sensible à la... Je ne dis pas qu'il était pauvre, évidemment, mais il a été très sensible néanmoins à un monde où côtoyaient des gauchos, des brigands, des bandits, des joueurs de cartes, des alcooliques et des directeurs d'entreprises ou de grandes filiales, et des écrivains comme lui. Et il a été un écrivain qui s'intéressait aux existences infâmes. Foucault, du reste, a partagé ça avec Borges, puisqu'on doit à Foucault également un ouvrage sur l'existence des hommes infâmes.
À quels hommes infâmes en particulier ?
Alors, ce sont généralement des hommes qui sont criminels, c'est-à-dire que ce sont qui font du crime l'exercice d'un bel art. Enfin, ce serait les beaux-arts culminent dans le crime, non pas tant parce qu'il s'agirait d'une méchanceté foncière, mais c'est que le monde qui est celui de Borges était un monde extrêmement militaire, et donc dans sa propre famille il y a eu beaucoup de héros de l'Argentine, voilà, c'est ça, et donc extrêmement compliqué comme histoire. Et donc du coup, oui, pour Borges, nous sommes habités en fait par des espèces de schémas, des espèces de schémas dont on a du mal à se débarrasser et dont la littérature nous permet de comprendre les ressorts. Et alors le modèle qu'il prend le plus souvent comme l'exercice même de ce style vital, c'est le tango. Le tango, c'était une danse initialement qui se pratiquait au couteau. C'est une danse et dans le rapport de Brody d'ailleurs, on voit comment la manipulation de l'épée elle-même va communiquer à celui qui s'en sert sa puissance, sa suprématie. Au fond, chaque épée est un personnage conceptuel chez Borges, quelque chose qui lui permet au fond de tailler l'existence, de tailler un chemin dans l'existence qui malheureusement ne fera pas évidemment que le bonheur des uns et des autres.
Donc dans ces hommes infâmes, dans cette violence, il y a de la fascination chez Borges, et il y a aussi une forme de beauté de penser que c'est aussi dans l'infamie que on trouve la plus grande humanité, dans le sens où au fin fond de chaque homme, il y a peut-être cette infamie, et c'est peut-être ça finalement qui, de manière très irradiante, le passionne, et c'est ça peut-être qu'il essaye de saisir, Jean-Claude Martin.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débarrasser l'histoire de sa déchetterie, hein. C'est que notre histoire, elle est saturée d'événements qui sont infâmes, et que la grandeur de l'homme, précisément, consiste à les affronter, ces événements-là, avec les armes dont il dispose, et que du coup, nous ne sommes pas, évidemment, dans une histoire qui coulerait d'amont en aval sans aucune turbulence. La turbulence nous traverse, nous sommes dans une existence qui est une existence qui doit se battre avec des fantômes, avec des spectres. Nous sommes hantés par une histoire qui est dramatique, et la valeur d'un auteur, pour Borges en tout cas, serait d'en extraire toute la force de résistance. C'est que dans le drame le plus sordide, il y a aussi la capacité de résister au mal.
Il y a donc le mal, il y a l'infamie. Est-ce qu'il y a aussi le bonheur chez Borges ? Est-ce que c'est une catégorie qui existe ?
Oui, non, mais alors là, vraiment, je pense qu'en effet, plus que le bonheur même, il y aurait quelque chose de l'ordre de la béatitude dans l'écriture de Borges. Évidemment que Borges prend les événements les plus dramatiques comme des ingrédients littéraires. Il n'est pas question, en effet, de prendre la question du mal dans ce qu'elle comporte de plus terrible du point de vue de l'existence elle-même. Borges, donc oui, c'est un écrivain pour qui la poésie a la vertu cardinale, peut-être, même s'il n'y a plus de cardinalité chez Borges, mais pourquoi pas dire que ce serait une espèce de phylactère. Vous voyez, le poème écrit sur un bout de papier comme un phylactère, le phylactère médiéval sur lequel on écrivait le nom de la vertu. Donc oui, le poème pour Borges, c'est ça, c'est un instant qui est sauvé de l'histoire. Mm-hmm. Le poème...
Donc le bonheur, c'est la littérature obligatoirement, c'est le poème ou l'art obligatoirement?
Pour Borges, le poème reste en effet une dimension qui est constitutive de son écriture et du coup le rapport qu'il peut avoir à l'art est un rapport qui passe par le poème, même si, comme je le précisais tout à l'heure, le poème chez Borges n'est pas simplement de la mélodie et qu'il y a des moments très très intenses dans le poème qui relèvent au fond de l'instantané. Toute l'entreprise de Borges est dans ce souci de créer l'instant, c'est-à-dire le moment opportun à partir duquel le temps va pouvoir se compresser. Il y a une espèce de frange qui en émane, quelque chose qui relève presque d'un suaire, une espèce de transpiration du temps. Il a beaucoup écrit sur cette question du temps, Borges, et il envisage le temps comme, au fond, non pas seulement ce qui coule d'amont en aval, ce serait la figure un peu héraclitienne du fleuve. Le temps, pour Borges, ce n'est pas jamais tu ne te baigneras deux fois dans le même fleuve, certes. Ça n'est plus la même eau. Demain, si je me baigne dans le Gange, il a de fortes chances que l'eau ne soit plus évidemment composée de la même matière que celle de tout à l'heure, ou d'hier, ou d'une autre journée. Et par conséquent, pour Borges, le temps, ce modèle fluvial, doit être lu d'une toute autre manière. Pour Borges, il y a des tourbillons. Il y a des espèces d'entonnoirs qui se constituent à la surface du fleuve et qui relèvent de quelque chose d'éternel. Sous le pont Mirabeau coule certes la Seine, mais on pourra voir aussi que sous ce pont s'installent des espèces de turbulences, des remous, toujours au même endroit, et que Parménide s'installe sur le dos d'Héraclite. C'est-à-dire, pour Parménide, le non-être n'est pas, le devenir n'est pas intéressant. Ce qui intéresse Parménide, ce serait plutôt ce qui scintille à la surface du fleuve, ces espèces de lents contre-filets qui remontent en sens inverse, puisque nous savons aujourd'hui que en mettant des petits ballons colorés sur la surface d'un fleuve, l'eau ne coule pas simplement d'amont en aval, mais qu'il y a de minces contre-filets qui vont remonter d'aval en amont, et que par conséquent la figure du temps s'inverse, et dans cette inversion constitue un peu des vortex, enfin des entonnoirs noir, qui relève de ce que Borges pourrait qualifier d'éternel, en tout cas l'image de l'éternité. Par conséquent, le temps n'est pas seulement l'image mobile de l'éternité, comme le voulait Platon, le temps c'est le lieu même où Borges va faire émerger des instants particuliers qui sont des moments de béatitude absolue.
Et le temps qui coule tout de même pour l'être humain, vers sa fin, c'est-à-dire vers la mort. Est-ce que cette perspective est une perspective toujours présente, celle de la mort, dans les textes de Borges ou dans dans sa manière de voir le monde?
Oui, bien sûr, il y a un beau texte, un grand texte de Borges sur l'immortel, où on voit bien que l'immortalité nous conduirait à la déchéance la plus radicale. Enfin, ce serait la loque qui s'installe qui s'installe dans une forme de déchéance qui ne pourrait marcher qu'au Prozac, finalement.
Ouais. Il pouvait, en s'amusant, souhaiter d'ailleurs mourir rapidement. On l'entend dans les archives.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'immortel, on a effectivement des hommes tellement dans l'ennui de l'immortalité que des oiseaux vont construire des nids sur leur chevelure qui n'a plus été coupée. Enfin, vous voyez, des espèces de chevelures qui sont complètement arborifères qui sont devenus des branches et que c'est une loque l'immortel. Et Borges ne souhaite pas l'immortalité. Pour Borges, l'éternité, c'est au contraire une forme d'éternel retour où ce qui revient, c'est davantage l'affirmation de l'instant. Il ne s'agit pas de revivre le même instant, mais il s'agit de vouloir considérer sa propre existence comme si tout instant était souhaité, comme si j'étais à même de vouloir revivre exactement l'instant le plus épouvantable de mon existence. Il y a donc là un rapport à Nietzsche, il y a par conséquent aussi toute la question des stoïciens, l'expression de l'amour, l'amour de l'événement, l'amour de la fatalité.
Merci beaucoup Jean-Claude Martin pour cette plongée philosophique.
Merci à vous.
Dans l'œuvre de Borges. Je rappelle donc votre essai Borges, une biographie de l'éternité, paru en 2006 aux éditions de l'Éclat. Pour ceux qui voudraient aller plus loin dans votre pensée, qu'on a finalement à peine effleuré aujourd'hui. Borges, qui par ailleurs occupe une place importante dans toutes vos œuvres, y compris dans votre dernier essai qui lui vient de paraître aux éditions Les Impressions Nouvelles et qui s'appelle Logique de la science-fiction, de Hegel à Philippe Kadic. Demain, nous serons en compagnie de Christian Garcin pour continuer à évoquer le grand écrivain argentin, mais tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. L'âme est un puits, elle l'est en chaque homme. La caractéristique du poète est sa gloutonnerie ajoutée à sa capacité de dilatation. Il est comme un serpent. Quand il a trop mangé et digéré, il se sent flasque. Quand il est affamé, il se sent rapetissé. Où est-ce qu'on a trouvé ces mots? Ce sont des mots de Martin Wable, avec qui de fil en aiguille nous passons la semaine. En voyageant sur Internet, on peut suivre des revues de poésie, comme par exemple Remu.net, ou Poésie Bao, ou En attendant Nado, ou la revue Secousse, la revue Esprit Nomade et tendre. Dans la revue Poésie Bao, nous avons trouvé un poème de François Jacquemin, qui a retenu notre attention. Rompu à la discipline du rien, pigment de la limpidité, l'être annonce le crépuscule des adjectifs. Nulle part est la plus ancienne clairière, c'est le lieu où vit le grand air. Il n'y a ni distance ni horizon, tout y fut sauvé avant l'analyse du monde. Le soir, les oiseaux repassent comme des remords. Ils obscurcissent le ciel de leur futaie noire. À première vue, il pourrait s'agir d'un problème de connaissance. À l'extrémité de la frondaison, on ne distingue plus la fiction de la feuille. On s'émerveille de l'imbroglio vert qui fait voir que l'esprit remonte à l'invention de la matière. Le rien que l'être porte en lui est l'inextricable argument que nul ne déjoue. C'est une démonstration frappée de paralysie grammaticale. S'exprimer relève des formes archaïques de notre être. Nous errons mélancoliquement dans le dire. Nous sommes terriblement âgés lorsque nous prenons la parole. Ce poème est tiré de Traité de la poussière de François Jacquemin, Traité de la poussière, publié au Cadran Ligné et que j'ai trouvé sur Poésie Bao. Et puis comme c'est la semaine revue un peu, on ne sait pas sur quoi on tombe, le conducteur nous permet de conclure. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, ladies and gentlemen, listen please. En raison d'un accident sur la voie, notre rame est momentanément arrêtée. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet inconvénient indépendant de notre volonté. Nous espérons pouvoir repartir dans quelques instants. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, l'incident n'est toujours pas résolu. Nous vous prions de prendre patience, le trafic ne devrait pas tarder à retrouver son cours habituel. Mesdames, messieurs, attention, ce n'est pas normal, attention. Non, je vous préviens, ce n'est pas normal. Gardez votre sang-froid. Moi, je ne peux plus. Je n'aurai jamais fini mon service à l'heure prévue. Ça ne fait pas un pli. C'est la troisième fois en une semaine. Il faut protester. Je vous invite à protester. Il faut protester. Il faut s'organiser. Groupez-vous. Associez-vous. Faites connaissance. Adressez une pétition. Deux pétitions. Beaucoup de pétitions. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Aidez-moi à faire quelque chose. Moi, je ne peux plus. Ça, c'est un poème de Patrick Le Divenat dans Spiralique. C'est un bouclègue, ce petit recueil publié par Maelstrom Éditions.
Merci Jacques Bonafé, vous lisiez aujourd'hui notamment des poèmes de Martin Wable et de François Jacquemin.